France Inter, le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est la femme du dessinateur Tignous.
Bonjour à vous, Chloé Verlac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes le 7 janvier 2020. Il y a 5 ans, jour pour jour et presque heure pour heure, vous disiez au revoir une dernière fois à votre mari. Il venait d'accompagner vos deux enfants à l'école. Il partait pour sa conférence de rédaction. Il vous disait au revoir depuis la rue. Vous étiez à la fenêtre en faisant des cœurs avec la main. Vous ne le savez pas à cet instant, mais c'est la dernière fois que vous allez voir votre mari. C'est la dernière fois que vous allez voir Tignous.
C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est surtout qu'il m'a dit à tout à l'heure, qu'il ne m'a pas dit au revoir et que ça a été finalement très très long d'arriver à se dire au revoir. Et oui, il m'a même fait un doigt d'honneur en riant, ce que j'ai beaucoup aimé parce que ça lui ressemblait énormément. Et je lui ai fait une petite moue de chagrin, donc finalement il a fini par me faire un cœur avec les doigts et a passé sa main au-dessus du portail. Oui.
Et il est parti. Vous racontez cet ultime au revoir, cet ultime à tout à l'heure, avant que la vie bascule dans l'irrationnel. Ce dernier regard, ce dernier sourire, avec le dessinateur Tignous, donc, le père de vos deux enfants. Vous racontez ça dans un livre qui vous prend à l'estomac, que vous publiez chez Plon, dont le titre est « Si tu meurs, je te tue ». Là, ça vous fait rire votre titre?
En fait, il me plaît. J'aime bien l'entendre dans votre bouche.
Voilà, ça s'appelle « Si tu meurs, je te tue ». La matinée se poursuit donc, vous racontez cela. Vous recevez à 11h30 un coup de fil du cousin de Tignous qui vous dit qu'il y a une fusillade en cours à Charlie. Vous essayez d'appeler Tignous une fois, deux fois, dix fois, il répond pas. Vous appelez ensuite Luz, Charb, Patrick Pelou, pas de réponse. Et c'est finalement la dessinatrice Coco qui décroche. Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Coco, elle est en larmes et elle me dit... Chloé, viens vite, je ne sais pas s'il est encore vivant.
Vous filez sur place, c'est le chaos, le périmètre est bouclé, vous essayez de passer, vous répétez cette phrase au policier. Je suis la femme du dessinateur Tignous, j'ai deux enfants en bas âge, je veux savoir s'il est vivant ou blessé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Personne ne vous laisse rentrer?
Alors personne ne me laisse rentrer et moi j'ai ce sentiment terrible que si je craque, si je m'énerve, si je hurle, si je pleure, on ne me répondra pas et que je serai reléguée dans la catégorie des femmes hystériques. Donc il faut absolument que je me maîtrise et que j'explique la situation pour que les gens prennent conscience du fait que c'est important de me répondre. Et en fait, ça je le comprends des années après, c'est que personne ne veut prendre la responsabilité de me parler et donc tout le monde me dit « on ne sait pas ».
On ne sait pas. Personne va vous dire, même les médecins. Et à la fin, vous finissez par rentrer. Alors, vous retenez une scène avant de rentrer avec Richard Malka, l'avocat de Charlie, et Jeannette Bougrab. Ouais. Racontez-nous ce moment.
Pour moi, cette scène est terrible parce que je pense que je suis sur le trottoir depuis des heures. En réalité, je pense que ça fait une heure et demie, mais le temps se dilue et est infiniment long. Et je vois donc passer Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, et Jeannette Bougrab, qui eux passe les barrages. Et donc je l'appelle en lui disant, on se connaît. Et je lui dis, Richard, ils ne veulent pas me laisser passer. Il s'est retourné, il a haussé les épaules et il a continué.
Finalement, vous parvenez à rentrer. Personne n'ose vous dire la vérité en face, personne. Même les médecins à qui vous interrogez, est-ce qu'il est vivant? Personne n'ose vous dire, il est mort. À la fin, c'est Luz qui va même pas le dire, qui va même pas le formuler, mais qui va vous le faire comprendre.
En fait, le directeur d'asile psychologique du SAMU est là à ce moment-là. Il me prend par les épaules, il me regarde bien droit dans les yeux et il me dit « Mais on ne peut rien vous dire pour l'instant. » Et c'est une infirmière de la Croix-Rouge qui, en fait, n'en peut plus et elle hurle, elle supplie de me répondre. Et donc, c'est moi qui verbalise, c'est moi qui demande « Est-ce qu'il est mort ?» Et je fais un tour, en fait, d'horizon de la salle et dans les regards que je croise, il y a Luz qui hoche de la tête.
Et vous comprenez?
Et je comprends.
Et puis ce sont sans doute les pages les plus tristes, celles qui arrachent le plus dans votre livre, en tout cas qui m'ont le plus arraché, c'est le moment de l'annonce aux enfants. Vous rentrez chez vous et il faut que vous annonciez à votre fille de 9 ans et à votre fils de 5 ans que leur père a été tué. Comment on dit ça? Comment ils vont réagir?
Alors comment on dit ça? C'est une question que je me suis posée vraiment jusqu'à arriver chez moi et ma petite fille avait compris. C'est-à-dire que quand je l'ai emmenée dans la chambre pour lui parler, c'est elle qui m'a regardée et qui m'a dit « Mais je sais maman, je sais papa, il est mort. » Et elle m'a dit « Maintenant, il faut que tu parles à Solal et son petit frère qui avait 5 ans. » Et ça, en fait, ça la bouleversait plus que pour elle. Elle était rentrée déjà dans son rôle de grande sœur protectrice. Et lui a eu cette phrase incroyable où il m'a dit « Ah ben, il faut que tu trouves un nouveau mari maintenant ». Mais ça a été sa manière de se protéger très fort, parce qu'il a été très en colère, parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il avait seulement 5 ans.
Oui, il n'a pas compris. Vous racontez aussi les psys. Patrick Peloux vous dit « Va vite te faire aider, va à Necker ». D'abord, vous bataillez pour avoir un rendez-vous avec les psys.
On a bataillé pour tout.
Oui, c'est ce que vous racontez. Et le rendez-vous avec les psys et les enfants, vous dites que c'est très décevant.
Mais c'est très décevant parce que moi, j'espérais qu'on ait un vrai accompagnement. Et en fait, on n'a pas eu affaire à des gens aussi, c'est terrible ce que je vais dire, je pense, mais aussi compétents que ce qu'il aurait fallu. Après, tout le monde, 5 ans après, on le sait, tout le monde a été dépassé par l'ampleur de... Humainement, personne n'a été capable de faire face.
En tout cas, vous n'esquivez rien dans votre livre. Vous racontez la folie administrative sans fin dans laquelle vous entrez après sa mort. Vous parlez, je cite, du manque total d'humanité, d'une administration qui coche les cases et s'accommode de normes. Par exemple, on vous renvoie le dossier de pupille de la nation de votre fils sous prétexte que la photo d'identité n'est pas au bon format.
Oui, alors ça a été merveilleux. Et donc j'ai renvoyé le dossier exactement pareil, avec juste un post-it en disant « Si on fait cette demande de dossier, c'est qu'on vient de vivre un drame, donc prenez des ciseaux et retaillez la photo. » Ce qu'ils ont fait.
Déception vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de François Hollande, vous l'écrivez. Vous estimez que vous n'avez pas été suffisamment prise en charge par les services de l'État, ni humainement, ni financièrement.
Non, il y a eu des promesses et puis il n'y a pas eu d'accompagnement, puisque finalement, humainement, c'était impossible à gérer, sauf que on ne pouvait pas non plus le gérer autrement, puisqu'en fait, on ne rentrait dans aucun formulaire, dans aucune case, et donc on n'a pas su nous gérer. Mais au-delà de ces manquements-là, il y a eu quand même de très belles choses. Heureusement, on a rencontré des gens formidables, et il y a des gens qui ont été là et qui ont été
Christiane
efficaces.
Christiane
Taubira.
Vous en parlez.
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes devenue son amie?
Moi, j'aime à dire ça, oui.
En tout cas, elle est la vôtre.
Oui.
Et surtout, vous parlez de la phrase de Paul Éluard qu'elle va lire au funérailles de Tinius. Tu rêvais d'être libre de... je vais pas la renier. Tu rêvais d'être libre et je te continue. Une phrase que vous vous êtes tatouée sur le corps, qui est très belle. Il y a aussi, pardon d'y revenir, mais ceux à qui vous en voulez, une véritable amertume à l'égard des survivants de Charlie, notamment de Rhys, des actuels de Charlie Hebdo. Vous leur reprochez beaucoup de choses, d'avoir trop vite parlé d'argent et des parts du journal, de ne pas vous avoir donné assez d'argent à vous. Vous leur pardonnez pas. Il y a aussi quelque chose d'une forme de règlement de compte.
Non, j'ai pas cette impression-là. Je crois que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens en dédicace et pendant les conférences que j'ai fait autour des livres de Tinius que j'ai publiés ces 5 dernières années. J'ai rencontré beaucoup de gens formidables et les gens m'ont posé beaucoup de questions. Ils avaient envie de savoir. Donc moi, j'ai raconté et les faits sont les faits et les faits sont têtus.
Et donc, vous leur reprochez quoi si on...
Je ne leur reproche rien. Je pense qu'ils ont fait comme ils ont pu et je pense qu'ils n'ont pas toujours bien fait.
Durant des mois, vous restez obsédé par les circonstances de la mort. Vous voulez savoir comment il est mort.
Oui.
Vous finissez par vous porter partie civile juste pour avoir accès à l'autopsie. Qu'est-ce que vous apprenez, Chloé Verlac, dans cette autopsie? C'est la chose la plus poétique au fond de votre livre.
Ouais, moi je trouve que c'est la plus douloureuse parce qu'en fait c'est toutes ces images, l'imagination est extrêmement fertile et moi j'ai dormi et je me suis réveillée avec des images monstrueuses de morts et de scènes que j'ai imaginées et qui m'ont détruites et j'avais besoin de savoir pour arrêter de me fabriquer des dizaines de scénarios et de visualiser, de savoir. Ce que j'ai appris et ce que j'avais besoin de savoir, c'est comment exactement Tinius était mort. Et Tinius a été exécuté.
Et il est mort, vous l'apprenez.
Et il est mort, et c'est très beau parce qu'on a dit qu'ils étaient morts, le feutre à la main, le crayon à la main. Et pour l'image romantique, Tinius avait vraiment son feutre à la main.
Voilà,
c'est il ne l'a pas lâché.
Non, il ne l'a pas lâché, c'est ce que vous apprenez dans le rapport d'autopsie, qui est à la fois extrêmement douloureux et extrêmement beau. On peut lire tout ça dans votre très beau livre, Si tu meurs, je te tue, c'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Chloé Verlac, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Et bonne journée.